Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur. C'est avec un grand plaisir, grande joie, grand bonheur que je suis à nouveau avec vous. Et pour m'accompagner, on a Luc Desormeaux. Salut Luc.
Salut Jean-Benoît.
Et Daniel n'est pas là. Va être de retour la semaine prochaine, cause maladie. Là, rien de très très grave, c'est juste une momone.
Ouais, le dieu a été terrassé par une grippe.
Une grippe, mais une solide grippe.
Hein? Non, on doit dire que c'est probablement une grippe d'homme.
Oui, oui, oui. Une grippe de Dieu.
Ouais, c'est ça. S'il ne peut pas se permettre d'être ici ce soir, on imagine que c'est extrêmement grave.
Ah non, c'est clair. Il y a du monde qui aurait été mort suite à une telle infection. Là. Lui, il a survécu et il combat là, de toutes ses forces.
Oui, sûrement. Mais il va se faire une petite prière à lui-même. Puis, il devrait être correct.
Ou une petite tisane médicamenteuse. Ça serait peut-être une bonne idée aussi.
Selon.
Luc, de quoi tu vas nous parler cette semaine?
Moi, je vais vous parler d'un jeu rétro. Je vais vous parler d'un jeu que je titille depuis longtemps qui s'appelle Beyond Castle Wolfenstein, qui est un jeu qui date des années 80. Mais oh, quel excellent jeu!
Ouais, très intéressant. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Moi, je vais vous parler du film Need for Speed, film tiré de la franchise de jeux de course. Et c'est loin d'être le pire film basé sur une franchise de jeux vidéo que le cinéma hollywoodien nous a présenté. C'est même très, très bon. Je garde tout ça là, pour la toute fin de l'émission. Juste avant...
Donne ta note tout de suite, un coup parti. C'est très, très bon et ma note est un.
C'est
ça, un coup parti.
Non, mais je voulais... On voyait avec ta chronique avant, mais je voulais parler en tout début.
C'est un nouveau mot, ça?
Ouais, c'est une nouvelle expression. Je voulais saluer la gang de Frima Studio de Québec. Microsoft a dévoilé via un communiqué de presse les 25 premiers jeux indépendants à être disponibles sur la One. Et ces 25 jeux-là, on retrouve entre autres Guacamelee, dont j'ai fait de la critique il n'y a pas si longtemps que ça, dans la réalité augmentée. Mais somme toute, c'est des jeux, là, c'est des nouveaux jeux qu'on a très très peu d'informations. Tellement peu d'informations que Frima, le jeu n'est même pas encore annoncé sur leur propre site internet. Ça s'appelle Chariot, donc comme un chariot. On dit que c'est un jeu de plateforme coop. On a, c'est à peu près tout ce qu'on a comme information là-dessus. J'ai été en mesure de parler avec quelqu'un de chez Frima. C'est bel et bien un de leurs jeux. Mais il n'y a pas pu m'en dire plus que ça. Donc, on va essayer de s'informer. Ce serait le fun d'avoir les gens de Frima sur l'émission. Un beau petit projet. C'est le fun de voir une entreprise de Québec qui est en mesure d'être dans les premiers à défricher la Xbox One dans le domaine du jeu indépendant.
Ouais, toujours le fun de voir des petites compagnies d'ici avoir du succès.
C'est drôle parce que, comme on jase en dehors des ondes, tu me soulignais ça, c'est drôle de voir que Microsoft sort un communiqué avec des informations que l'entreprise elle-même n'a pas dévoilées. On savait même pas qu'il y avait ce projet-là chez Frima. Et là, ben Microsoft, je sais pas si c'est un concours de circonstances, si on l'a échappé, si on a dévoilé ça trop vite ou pas assez vite de la part de Frima. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils se sont fait couper l'herbe sous le pied par Microsoft là-dessus.
Ben, c'est comme un windfall.
Ouais, mais...
Genre, là, c'est un peu ça.
On va essayer d'en apprendre plus, puis on vous reviendra là-dessus.
Bon, mais regarde, l'important, c'est que, bon, ils s'en vont sur la Xbox One. C'est la première batch, donc tu fais partie des premiers. C'est gratifiant. Ça fait du bien à un ego.
Oui, après ça, c'est eux autres qui vont aider les autres entreprises, certainement, parce que une nouvelle console égale une nouvelle façon de procéder pour coder, puis des nouveaux bugs, des nouveaux problèmes que tu dois réussir à contourner. Donc, eux autres vont avoir l'expertise, puis pas nécessairement les autres. Fait que ça peut donner un certain avantage dans le domaine s'ils sont capables de capitaliser dessus, là.
Ouais, on leur souhaite énormément de succès.
Ouais.
Il avait été bien gentil de les faire un tour pour annoncer Zombie Tycoon 2.
Ouais.
Est-ce que c'est ce jeu-là qui est porté?
Non, c'est vraiment un nouveau jeu.
Complet, ouais. OK.
Peut-être qu'éventuellement Zombie Tycoon le sera, mais pour le moment, c'est Chariot, un projet là, qu'on a, comme je te dis, on a très très peu d'informations.
Ah, c'est beau. Vas-tu, j'écoute, on dirait que j'écoutais pas. J'ai manqué le mot Chariot.
Ah, ok. Je voulais que tu me parles, on va y aller tout de suite avec ta chronique de cette semaine, Beyond Castle Wolfenstein. Non, ce n'est pas le fameux shooter 3D, là, l'un des premiers qu'on a pu connaître dans le domaine du jeu vidéo. C'est avant ça. On parle ici là, d'un jeu en 2D, c'était sur des plateformes qui ne se produisent plus là, de ce temps-là.
C'est ça, ça date de 1984. C'était un jeu qui venait d'une compagnie qui s'appelle Muse Software. Ça a été designé par un gars qui s'appelle Silas Warner. Puis ce gars-là est décédé en 2004. Il a quand même marqué l'histoire du jeu vidéo pour ce jeu-là qui était, je veux dire, vraiment une révolution. Puis bon, quand je le jouais étant jeune, je me disais, bon, je m'apercevais pas que c'était aussi une révolution que ça, mais c'était dans les mécaniques de jeu que c'était intéressant. Là, si on recule, là, le jeu était disponible sur Apple II, Commodore 64, sur DOS et sur Atari 8-bit, là, donc les Atari 800 XL et 600 XL du temps. La plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ces machines-là.
Ou les ont jamais essayées.
Ouais, mais moi j'ai eu, quand j'étais jeune, j'ai eu un Atari 600 XL. Puis après ça, je me suis aperçu que toutes mes amies alentour de moi avaient des Commodore 64, donc l'Atari a pris le bord et le Commodore a rentré dans la maison. Et c'est sous le Commodore 64 que moi, j'ai joué à ce merveilleux petit jeu d'aventure. Donc, c'est quoi Castle Wolfenstein? C'est la suite, Beyond Castle Wolfenstein, c'est la suite d'un jeu qui s'appelle Castle Wolfenstein. Donc, c'est un peu la même mécanique de jeu, mais Beyond Castle Wolfenstein était un peu plus difficile parce que dans Castle Wolfenstein, on nous équipait d'une grenade qui était quand même assez explosive. C'était plus facile de tuer des ennemis. Tandis que dans Beyond Castle Wolfenstein, on a remplacé la grenade par un... Bon.
Ouais, c'est un peu moins létal.
Pas le même genre de dommage. Il faut être un petit peu plus proche pour trucider un ennemi. Donc, ça se passe dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. On joue le rôle d'un soldat. C'est finalement le même soldat qui, dans Castle Wolfenstein, notre but, c'était de s'échapper du château, s'échapper du donjon où on était gardé. Là, ben, c'est le contraire. On essaye d'entrer... dans le donjon, donc on fait vraiment genre comme si on avait oublié ses clés, puis on a décidé d'y retourner pour voir si on pouvait pas y trouver. Mais le but, c'est de, tu sais, rien d'autre qu'aller tuer Adolf Hitler. Rien de moins que ça. Donc, on commence, puis ce qui était intéressant dans ce jeu-là, déjà en partant, c'est que tous le jeu est un succession de tableaux un peu labyrinthe, là, mais pas à ce point-là, mais vraiment avec des espèces de chambres de bunker. Et quand on commençait une nouvelle partie, on pouvait choisir de générer un tout nouveau bunker avec plusieurs salles, un tout nouveau bunker à partir de zéro, où on pouvait garder le dernier bunker dans lequel on avait joué. Mais si on choisissait de générer un nouveau bunker, c'était généré aléatoire, puis on n'avait jamais exactement la même partie.
OK.
Les choses n'étaient pas cachées à la même place. Le niveau final n'était pas nécessairement toujours à la même place. Les tableaux n'étaient pas pareils. Le nombre d'ennemis dans chaque tableau n'était pas pareil. Ça rendait le jeu excessivement amusant à jouer. Puis la rejouabilité, déjà, on avait pensé à ça parce qu'on génère un nouveau tableau, on génère un nouveau bunker complet, ben la partie est totalement différente. Donc, on commence simplement au premier étage et puis on est armé d'un fusil et un couteau. Puis on part. Les balles sont limitées. Il faut fouiller les cadavres des gens qu'on tue pour ramasser des balles et des passes. C'était aussi un des premiers jeux où il y avait... Bon, grossièrement, il y avait des personnages qui parlaient, mais c'était vraiment limité et extrêmement... C'était rudimentaire.
Ils parlaient avec...
juste pour dire...
Pas des voix, des textes, là.
Non, des voix.
Ah ouais?
Ça parlait, mais c'était en allemand et ça disait des choses comme genre « passe-passe » comme « donne-moi ta passe » ou « Heil » pour « Heil Hitler » quand tu montrais la bonne passe et ces choses-là. Donc, il y avait vraiment du texte, mais c'était extrêmement rudimentaire. Là, je le ferai pas, là. Mais on avait l'impression que c'était quelqu'un qui était à un demi millimètre du micro puis qui gueulait dedans. C'était vraiment ça. Mais on comprenait, puis c'était impressionnant. Il y avait de la voix dans le jeu. C'était le fun pour ça. Donc, le but, c'était de se rendre à Hitler pour le tuer. C'est pas un spoiler. C'est le but du jeu, puis on le sent en partant. C'est de le trouver qui est difficile. Donc, on rentre. On commence avec presque rien. On rentre dans les premières salles. Et là, c'est là que le fun commence. On a un peu comme on peut faire dans des jeux plus récents comme le jeu de Eidos, Deus Ex Human Revolution. On peut y aller à tuer tout ce qui bouge ou y aller c'est plus difficile, mais d'y aller vraiment sans tuer personne en négocier avec eux, mais c'est plus vraiment montrer la bonne passe. Chaque étage avait une passe, c'était pas toujours la même, c'est la même pour le même étage, mais aussitôt qu'on changeait d'étage, c'était une passe différente, et c'est pas parce que t'étais au premier étage que la passe que t'avais besoin, c'était la passe numéro 1. Mais ce qui se passait, c'est que dans le jeu, tu présentais la passe au garde qui te pognait. C'était possible que la première passe que tu avais ramassée sur un garde, c'était pas la bonne passe pour l'étage. Mm-hmm. Si tu montes pas la bonne passe, il te redemandait une deuxième fois la passe. Et là, ben, vu que tu commences le jeu et tu as seulement une passe, tu avais le choix de tuer le garde.
Ouais, non, c'est ça.
Ou de te sauver en courant. Mais te sauver en courant n'était pas nécessairement une option. Il y avait des alarmes où le garde pouvait aller activer. Et puis là, ça déclenchait vraiment l'alarme dans le bunker au complet. Et il y avait des gardes des SS qui étaient habillés différemment. C'était vraiment marqué SS sur leur chandail. Puis il y avait il était habillé, je me rappelle, en jaune au lieu d'être en rouge. Là. Et puis, ce garde-là pouvait changer de local. Il pouvait changer de niveau et te suivre pour te trouver puis te tuer.
OK.
Fait que c'était vraiment, il changeait de place, il s'en allait dans une nouvelle pièce. Si tu traversais, il pouvait quand même te trouver. Donc, il fallait vraiment, quand même vraiment être technique. On pouvait tuer un garde en arrivant par en arrière de lui, parce que les gardes marchaient, c'est vraiment c'est un peu isométrique, là, mais c'était vraiment pas 3D. C'est que le bunker était vraiment en 2D. Puis le personnage marchait un peu comme s'il était en 3D. Donc, c'est un peu comme si il marchait sur le dos. Ça peut vous donner une idée. Là. C'est mettons un peu comme s'il marchait sur le dos.
Mettons qu'on voit la caméra du dessus. C'est comme si le gars, il était comme couché dans son lit puis tu le voyais marcher. Là.
C'est ça. C'est un peu précurseur à la petite vie.
Genre,
sauf qu'il dormait pas. Donc, c'est ça. Donc, les personnages marchaient un peu comme ça. Donc, on pouvait voir qu'il venait de face ou qui allait de dos parce qu'il y avait des casques sur la tête. Donc, quand il était de dos, on pouvait arriver en arrière avec le dit couteau, qui n'est plus une grenade, puis le poignarder, puis le tuer. C'est aussi un des premiers jeux où, parce que des fois, il y avait plus qu'un garde par pièce, on pouvait tirer un cadavre pour aller le cacher à quelque part où le pattern de l'autre garde ne se rendait pas. Parce que oui, il y avait quand même certains patterns, les gardes avaient certains patterns, sauf que si tu avais été reconnu avec une passe, ils ne t'achalaient plus après. Puis si tu te mets en face d'eux autres, leur pattern changeait parce que tu étais dans leur ligne de marche. Puis là, au lieu de marcher de gauche à droite, ils pouvaient commencer à marcher de haut en bas. Donc, tu étais capable de changer le pattern du garde essayer d'aller éliminer l'autre. Okay. Fait que c'était quand même assez stratégique.
T'es malléable un peu, là.
C'est ça. Fait que là, tu pouvais tuer un garde et fouiller son cadavre aussi. On pouvait trouver des balles, on pouvait trouver certaines choses, on pouvait trouver du schnapps qu'on pouvait boire. Puis ce qui était intéressant aussi, c'est que si tu buvais du schnapps, le bonhomme, ça marquait un hic au-dessus de ton bonhomme. Puis si t'en buvais trop, tu marchais croche. Tu marchais moins vite, tu marchais croche. Tu pouvais être blessé. Si tu faisais tirer une balle, ton bonhomme boitait et marchait moins lentement. Puis ça paraissait dans l'animation, puis ça paraissait dans le son aussi dans le jeu, que le personnage marchait pas droit. Fait que c'était vraiment intéressant. Il y a des personnages qui étaient plus durs à tuer. Il y a des personnages, ça prend une balle pour les tuer. Il y a des personnages, ça prenait quatre balles pour les tuer. Il te reste trois balles dans ton fusil. T'as quatre balles, ça te prenait quatre balles pour tuer le bonhomme. Tu fais bang, 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 le bonhomme est pas à terre, t'as zéro balle. Puis là, le bonhomme est en avant de toi, puis il te regarde parce que ben, t'as un fusil pointé sur lui. Donc, il pense qu'il est toujours chargé, mais tu fais juste pas tirer. Puis là, ben, il fallait que tu t'approches puis tu le finisses au couteau. Ou si tu avais le malheur de juste dire « je vais baisser mon arme puis je vais essayer de me sauver ou d'aller dans un coffre trouver des balles », ben lui, il partait, il allait partir l'alarme et t'étais faite.
OK.
Fait que, tu sais, l'intelligence artificielle, t'es vraiment pas niaiseuse. Puis pour 1984, je me demande vraiment comment, surtout Silas Warner a fait pour...
Il avait bien pensé ses affaires pour que ça ait de l'air... toutes les options fonctionnent bien l'une dans l'autre.
Ouais, c'était vraiment super intéressant. Et tu avais aussi des coffres à fouiller. Tu avais des personnages qui étaient assis à des bureaux. Puis eux, tu arrivais, puis tu pouvais arriver par en arrière d'eux autres, puis ils voyaient pas le fusil que tu avais pointé sur eux. Tu pouvais les tirer. Encore là, eux autres, si tu manquais de balles, il y avait un bouton en dessous du bureau pour activer l'alarme. Tu pouvais, si tu étais assez vite, aller désactiver l'alarme puis arrêter le branle-bas de combat que ça avait causé dans le bunker. Mais c'était vraiment bien parce que même l'animation était bien faite. Quand tu tuais un personnage assis à un bureau, il s'affaissait la face sur le bureau. C'était vraiment fait comme s'il était mort, la face sur son bureau. Puis encore là, c'est une autre chose. Ça prenait 4 balles pour le tuer, t'en avais 3. T'avais le fusil pointé sur lui, il y avait 2 mains dans les airs, puis il n'y a rien qui se passait tant que tu tirais pas ou tant que tu t'en allais pas de là. Si tu t'éloignais trop, il partait l'alarme et tout ça. Fait que c'était vraiment super bien fait pour ça. Il y avait des ascenseurs, on pouvait... chaque niveau était composé de plusieurs chambres différentes. Après ça, on était capable de prendre des ascenseurs et changer d'étage. On était capable de revenir sous nos pas si on voulait. On n'était pas comme dans certains jeux aujourd'hui. Un coup que tu as passé un niveau, tu n'es plus capable de revenir en arrière. On était encore capable de revenir en arrière dans ce jeu-là. Fallait vraiment fouiller les garde-robes, fallait fouiller les coffres parce que ce qu'on cherche dans le jeu, c'est The Bomb, la bombe, qui est une valise. Et puis le but, c'est de trouver Hitler et sa gang de généraux qui sont dans une pièce, puis aller mettre la bombe là. Mais un coup, tu as trouvé la bombe, c'est pas tout. Il faut que tu refasses le chemin à l'envers pour sortir du bunker avant que la bombe explose.
OK.
Parce que sinon, tu mourrais.
Ben oui.
Fait que c'est un jeu qui date de 1984. C'est quand même incroyablement bien fait, bien fait. Les graphismes, c'est sûr, c'est rudimentaire, là.
On s'entend qu'il y a beaucoup de l'imagination de l'enfant à l'époque qui faisait le travail.
Ouais, c'est ça, mais même si théoriquement les enfants n'auraient pas nécessairement joué à ça.
Oui, non, on le dira pas trop fort.
Il n'y avait pas de sang, c'était pas aussi bien fait qu'aujourd'hui, c'était pas aussi graphique qu'aujourd'hui, le sang puis tout ça, il n'y en avait pas dans ce temps-là. T'sais. Mais c'est vraiment la mécanique du jeu qui, moi, m'avait frappé. Parce qu'on pouvait. On pouvait ramasser de l'argent sur les cadavres, on pouvait ramasser de l'argent. Puis, on pouvait aussi, un peu comme certains politiciens aujourd'hui, on pouvait leur donner une petite enveloppe brune pour qu'ils nous laissent passer. Pour pas qu'ils nous, si on n'avait pas la bonne passe, on pouvait donner un peu d'argent. Puis, il y en a qui se laissaient faire, puis il y en a qui se laissaient pas faire. T'sais. Fait que c'était. Tu savais pas quel genre de personnage que tu avais en avant de toi. Puis, en régénérant un nouveau bunker à chaque fois si tu voulais, ben tu pouvais tout simplement avoir une partie totalement différente. Les personnages ne réagissent pas de la même manière. C'était vraiment incroyablement bien fait. Donc, ça se jouait avec un joystick ou avec le clavier. C'était aussi un des jeux où on pouvait... vraiment décider où on voulait pointer le fusil, puis on pouvait le pointer en avant, dans les diagonales, dans les côtés, en bas. T'sais, on pouvait vraiment le pointer où on voulait. C'était pas juste en avant. Il y a encore des jeux aujourd'hui où tu peux même pas tirer en haut ou tirer ailleurs. Il faut que tu tires en avant ou il faut que tu sautes pour tirer en avant. Ce jeu-là nous laissait vraiment choisir où on voulait tirer. Fait que c'était vraiment super bien. J'ai vraiment passé des heures et des heures.
L'as-tu réussi ce jeu-là?
Oui, je l'ai réussi quelques fois.
OK.
Puis c'était vraiment gratifiant, mais comme tout bon jeu des années 80, quand tu finissais, c'était félicitations.
Puis il recommençait au menu d'accueil, puis ouais.
Il n'y avait rien d'autre. mais tu sais, c'est vraiment un jeu qui, pour moi, a marqué mon imaginaire. Tu sais, puis c'est un jeu qui a pas eu un succès énorme dans le temps. Je veux dire, il n'y a pas eu une super critique. Tu sais, Computer Gaming World, dans le temps, avait donné 2 étoiles sur 5 à ce jeu-là. Mais pourtant, moi, tu sais, si tu me demandes, depuis que j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo, le jeu qui m'a marqué le plus, c'est ça. C'est pas Mario, c'est vraiment ce jeu-là, par sa mécanique, par l'immersion que tu étais capable d'avoir dans un jeu qui était graphiquement si déficient, on pourrait dire.
Oui, c'est ça. Si quelqu'un aujourd'hui, en 2014, veut y jouer, est-ce que c'est possible encore? Je sais que tu as déjà effectué quelques tentatives infructueuses.
Non, j'ai réussi.
OK.
Il y a une manière que je suis en train de regarder, puis je vous donnerai plus de détails, les gens qui s'intéressent, mais j'en donnerai plus peut-être dans le prochain ou dans un futur podcast.
Bon, on y reviendra.
Il y a une version qui a été faite après la mort de Silas Warner en 2004. Le code source a été reconstruit, puis a été porté pour une version du jeu qui a été donnée gratuitement. Puis ça, c'est par sa femme en son honneur à lui.
Okay.
Donc, c'est trouvable sur Internet. Si vous voulez chercher, là, moi, je vais chercher dans mes temps libres, mais si des gens qui veulent le chercher, vous pouvez aller voir sur oldschool.org, oldschool.org. Allez voir là. Vous allez... Il y a une manière de trouver le jeu, puis il y a une manière de pouvoir le jouer. Il y a aussi les manières, bon, plus ou moins légales, de l'utiliser dans un programme comme DOSBox, puis de downloader le ROM de PC du temps. Donc, vous pouvez jouer à cette version-là. La seule chose que je vous dis, moi, j'ai réussi à le jouer comme ça, mais allez dans les configurations du CPU dans DOSBox, puis descendez ça vraiment bas. Parce que quand j'ai commencé à jouer, j'ai fait une fois la flèche par en haut, puis mon bonhomme s'est ramassé la face première, trois chambres plus haut dans un mur en une demi-seconde.
OK.
Parce que la vitesse de calcul du CPU d'aujourd'hui était trop vite
pour
l'émulation. Donc, il faut jouer un peu avec ça. Mais oui, c'est trouvable. Si ça vous tente, comme je vous dis, il y a une version gratuite et légale qui a été faite en l'honneur de Silas Warner. Trouvez la version si vous voulez l'essayer.
Ouais, fouillez, là.
ça vaut le temps. Ça vaut le temps de recherche et ça vaut la peine de le jouer. Je vous avertis tout de suite, graphiquement, vous allez trouver ça extrêmement laid. Allez faire un tour sur YouTube, tapez Beyond Castle Wolfenstein. Il y a un gars qui passe à travers le jeu au complet en pas si longtemps que ça. Okay. Là, je me rappelle, c'est quelque chose comme c'est une vingtaine de minutes, une demi-heure.
C'est clairement pas un film de Michael Bay. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'image de 3D en synthèse de débile. Là.
Non. Ça, il y a un gars qui l'a fait en 10 minutes 55 sur Apple 2.
Okay.
Il a mis une vidéo sur YouTube. Fait qu'allez voir ça. Là, c'est vraiment, il passe à travers le jeu. Donc, c'est pas nécessairement long. J'ai vraiment l'impression que le gars a rejoué le même bunker plein de fois et s'est fait, comme moi je me faisais dans le temps, je me faisais des maps sur du papier pour savoir où y étaient les gardes, où quelle chambre j'allais prendre après telle chambre. À un moment donné, tu veux finir le jeu, tu veux te rendre au bout. Fait que je n'étais pas toujours en train de régénérer un nouveau bunker. Je prenais le même bunker, puis je continuais mes maps. Puis je m'étais ramassé avec un cahier assez plein de telle chambre après telle chambre. C'est quoi? La bombe est cachée où? Hitler est où? Fait que c'était vraiment un travail acharné pour finir ce jeu-là à un moment donné.
C'est pas drôle, mais, hein? Dans le temps, tu étais jeune, tu voulais pas faire tes devoirs, mais ça, par exemple, étudier le jeu, tu le faisais.
Écrire dans un cahier pour un examen de français, ben voyons donc. Mais je vous dis, si vous cherchez Castle Wolfenstein, vous êtes capable de le trouver à quelque part sur Internet. Bon, la légalité de la chose est vague, mais c'est un jeu qui vaut tellement la peine d'être joué. J'aimerais tellement qu'une compagnie, un start-up ou n'importe quoi, quelqu'un sur Kickstarter qui a le talent. Moi, j'ai pas le talent d'écrire un jeu vidéo, mais avoir le talent d'écrire un jeu vidéo, je referais exactement la même chose, mais un peu plus au goût du jour. Ça veut dire améliorer les graphismes des personnages, puis faire que les bunkers sont un peu moins... Tu sais, les bunkers ressemblent beaucoup aux espèces de briques qu'on a dans Mario, là, tu sais, des petites briques, là, mais en plus mince. Donc, ça ressemble un peu vraiment à ça. C'est de la brique tout le temps, de couleurs différentes.
Ouais.
je retravaillerais ça, je retravaillerais un peu le graphisme, mais j'essaierais de garder la nature du jeu, pas le dénaturer, c'est-à-dire garder la même perspective, le même style de jeu, mais juste mettre les graphismes un petit peu au goût du jour. Mais c'est un jeu qui est techniquement parfait comme il est là, là. Je veux dire, c'était hyper amusant à jouer. Fait que je vous invite à aller l'essayer. Au pire, allez voir les vidéos sur YouTube. Vous allez voir un peu c'était quoi. Moi, c'est un jeu qui m'a vraiment fait triper. Ça fait longtemps que je disais que j'allais en parler. J'en ai parlé sur Histoire de Gamer avec une couple de personnes. Comme, avez-vous connu ce jeu-là? Oui, oui, parce que moi, ça m'avait vraiment marqué. Puis, allez voir ça. Puis, si vous le jouez, ben, écrivez-moi, parlez-moi-en. Dites-moi, l'avez-vous aimé, l'avez-vous pas aimé, qu'est-ce que vous pensez? Mais là, c'est sûr, il faut regarder ça avec un recul de 1984.
Oui, il faut le replacer dans son temps, là.
Tu sais, fait qu'on recule quand même assez loin. J'étais pas tellement vieux dans ce temps-là, j'avais 13 ans.
Jeune et fringant.
Ouais, 13 ans, puis c'est vraiment le jeu qui a marqué mon imaginaire dans le temps. Même si les graphismes sont hyper laids, là, j'avais totalement embarqué dans ce jeu-là. J'avais trouvé ça tellement intéressant. Puis, des fois, le jeu réagissait pas comme tu pensais qu'il allait réagir, puis tu mourais. Puis des fois, ça te faisait même faire un saut parce qu'il y a la première fois que tu vois un garde SS parce qu'il y a une alarme qui a été tirée, puis tu vois un garde SS qui rentre d'une autre pièce, puis qui littéralement te court après, puis si tu changes de pièce, il change de pièce avec toi. Là. À 13 ans, là, c'est comme, oh, pas l'air, un peu. Là.
T'es pas supposé.
Non, pas supposé, puis dans d'autres jeux, là, il me suit, lui. Puis des fois, ça prenait 5, 6, 7 balles pour les tuer, les gardes SS, parce qu'il y avait comme des habits par balles. Fait que là, il fallait que tu trouves un autre garde normal à tuer, voler des balles ou un coffre avec des balles pour continuer à tirer dessus. C'était pas nécessairement facile, mais c'était gratifiant de se rendre à la fin de ce jeu-là parce qu'on travaillait fort. Là. Fait que, allez voir ça. Je peux pas y donner une note. Je suis trop biaisé
vers
ce jeu-là. C'est trop vieux aussi, mais ça vaut carrément la peine de jouer à ce jeu-là. S'il sort un moment donné sur Good Old Games ou quelque chose comme ça, si vous le voyez à 2, 3, 4 piastres, achetez-le légalement puis jouez-le. Mais comme je vous dis, il y a une version parfaitement légale, gratuite à quelque part sur le net. C'est juste de la trouver. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais ça vaut sûrement la peine de la trouver. Sinon, il y a les versions un petit peu moins légales, mais c'est tellement vieux qu'à un moment donné, la loi est vague là-dessus sur le point. Là, c'est-tu légal après un certain nombre de temps?
Ouais, la personne est décédée en plus, donc...
C'est ça, mais ça appartient quand même à Muse Software, mais Muse a fait faillite. Et puis, oui, vraiment, les versions... À ce que j'avais lu, les versions de ID Software, les versions de Castle Wolfenstein, le shooter qu'on a connu, qui était un des premiers shooters qui est sorti, ou si pas le premier, était un peu en l'honneur de ce jeu-là, un peu basé là-dessus. C'est aussi des labyrinthes, c'est aussi la même chose, sauf que là, on avait rajouté un peu du paranormal. Mais dans ça, c'est vraiment plus réaliste. Mais c'est un peu un honneur à ce jeu-là qu'ils ont fait. Là. Selon ce que j'avais lu, j'ai pas fouillé mes recherches. Je peux être totalement dans le champ. Mais c'est un excellent jeu.
C'est le fun, tu te laisses une marge de manœuvre.
C'est ça, je me laisse en disant que c'est possible que je sois totalement dans les jonquilles, non, dans les paquerettes.
Hey, moi, j'ai vu Need for Speed. Pour une fois qu'il y a un film basé sur une série de jeux vidéo... on parle beaucoup de films, de jeux vidéo, fait que c'était comme juste logique d'aller voir ça.
Moi j'ai une grosse, grosse, grosse question avec ce comment.
Vas-y, vas-y.
Moi, je suis j'étais la minute que j'ai vu qu'il y avait un film qui sortait sur Need for Speed, je me suis dit, oh Seigneur, c'est vraiment un prétexte à essayer de faire un peu de cash, mais ils m'ont eu au fait qu'il y a une Mustang dans le film, puis que c'était vraiment comme basé sur la nouvelle Mustang 2015 et tout ça. Puis bon, mais la vraie question que j'ai, c'est un jeu c'est un film tiré d'un jeu de Electronic Arts.
Oui.
Ils ont-ils arrêté le film au milieu pour te vendre un DLC?
Non. Non, non, pas du tout.
OK. C'était ma question totalement sérieuse. Et je me demandais, je me suis dit, ils vont sûrement arrêter le film soit en plein milieu, soit à chaque tiers du film pour essayer de te vendre un DLC téléchargement, pour te dire, « Aide le gars dans l'écran à changer son muffler de Mustang parce qu'il fait trop de bruit et il va pogner une étiquette. » Donc, donne 2 piastres ou 10 piastres ou 15 piastres.
Tu m'as pris par surprise, celle-là. Non, je t'avais pas vu venir.
Okay. Mais... Fait que le seul DLC que tu as acheté, c'est le popcorn.
Oui, exact. Puis, puis la liqueur, puis le supplément pour le 3D, parce que oui, il était présenté en 3D. 3D, qui soit dit en passant, est probablement la plus futile que j'ai jamais vue au cinéma. Si vous avez l'occasion de le voir, pas de 3D, faites ça, parce que le 3D vaut pas la peine. T'as même pas de... tu sais, la fameuse shot de 3D, là. Tu sais, que tu vas avoir une balle, un éclat de vitre, une flèche, du sang, whatever. Peu importe, qui va t'exploser dans la face. Tu sais, tu vas faire comme... « Oh, ça s'en vient vers moi! » T'as même pas ça, là. Fait okay. que le 3D, là, je vois vraiment pas l'intérêt, si ce n'est de me faire payer plus cher. Sincèrement, okay. là...
Ben, j'ai vu une couple de scènes dans le preview à télévision, dans la bande-annonce, où que, bon, la Mustang fait un saut de la mort qui tue qui serait totalement impossible à réaliser dans la vraie vie. En tout cas, puis que l'auto continue à rouler après. Là, ouais. Mais j'avais l'impression que ça avait été créé pour le 3D, cette scène-là, tellement que c'est comme invraisemblable. J'avais pensé qu'il aurait fait sortir l'auto de l'écran.
Même
ou quelque
pas.
Chose comme ça.
Même pas.
OK. Même pas de boucane, du pot d'échappement.
Mais non, dans... rien.
Rien, OK.
Pour vrai, là. OK,
continue, j'arrête de t'interrompre. T'as pas.
C'est l'histoire de Toby Marshall. Toby, notre héros. Non, ce n'est pas un caniche. Qui affronte son...
Toby, c'était pas un caniche. Toby, c'est un golden retriever.
Oui, ben, peu importe, là, un chien, bon.
Un gros caniche.
Non, ce n'est pas un caniche. Okay. Et son... on nous présente, OK, c'est une petite ville des États-Unis. C'est dans l'est des États-Unis où est-ce que il y a deux pilotes d'exception, OK? Les deux font de la course dans ce patelin-là. Il y en a un qui est extrêmement talentueux, notre héros Toby, qui est de loin meilleur pilote que l'autre. Mais pour des raisons, écoute, moins de capital financier, des choses comme ça, lui s'est ramassé à plutôt s'occuper du garage de son père, de reprendre la business familiale et continuer à vivre dans son petit patelin, tandis que l'autre est devenu une vedette internationale de la course.
J'ai le goût de dire pour des raisons du script.
Oui, il y a beaucoup de ça, là, mais dans l'histoire, on dit, tu sais, c'est pécunier, t'sais, c'est, okay, c'est une question d'argent. Et l'autre, celui qui devient riche, s'appelle Dino Brewster. Fait que là, okay. On a Monsieur Caniche, on a Toby et on a le chien des pierres à feu.
Ouais, c'est ça.
Ça va pas bien.
Ouais, c'est pas pire.
Sincèrement, moi, tout le long, j'ai fait comme... Le héros, à la limite, Toby, c'est correct. C'est pas un nom qui a consonance négative ou positive. C'est assez neutre. Mais Dino pour un méchant, là. J'ai rarement eu la chienne d'un Dino dans la vie, là.
Ben, tu pourrais toujours, là, mais...
Moi, en tout cas, moi, j'ai... Ah, ça sonnait bon enfant, ça sonnait... En tout cas, moi, ça m'a dérangé tout le long. Tu sais, t'as le choix. T'as l'éventail de tous les noms de l'univers, là. Pourquoi tu penses Dino? Si ce n'est que le gars, il a l'air d'avoir un petit ascendant, genre, italien, là. Mais, tu sais, même, là, des noms à consonance italienne, il y en a d'autres, là.
Mais tu sais, il y avait un lutteur dans le temps qui s'appelait Dino Bravo.
Oui.
Lui, il aurait pu te donner la chienne.
Pardon. Oui, mais il n'est pas dans le film.
Non, mais il était assez monstrueux.
Toby, notre personnage principal, est campé par Aaron Paul. Vous l'avez certainement reconnu. Il était dans la télésérie Breaking Bad qui a fait fureur sur la télévision aux États-Unis. Et donc, j'en reviens à la prémisse de base. Okay? Je vous explique un peu là, ce vers quoi on s'enligne. Toby est un conducteur de rue, fait des courses avec ses chums, il a son garage, toujours avec ses chums, puis il se fait un petit peu d'argent, toujours à la limite des paiements, t'sais, le garage est menacé de fermer, t'sais, faut qu'il réussisse à trouver de l'argent, et à un moment donné, Dino vient le voir, puis il y a toujours une rivalité entre les deux, t'sais, ils s'aiment pas depuis longtemps, t'sais, ça précède les événements du film, puis là, Dino, il dit... Je le sais que c'est lui le meilleur pour concevoir des bagnoles. Et il a mis la main sur une Mustang écoute-toi, Luc, tu capoterais dessus. C'est juste le frame, le moteur, puis il faut qu'ils construisent le reste. Tu sais, ils ont carte blanche, le but, c'est de faire le véhicule le plus hot possible. C'est un véhicule sur lequel M. Shelby a travaillé avant son décès. D'ailleurs, M. Shelby est décédé en 2012, donc on le savait au moment de créer le film. On a voulu lui rendre hommage. On a voulu que le véhicule reste le plus fidèle possible à ce que lui avait fait comme travail sur les dernières Mustangs. Et donc, dans le film, on finit par construire de la voiture, on la vend aux enchères à un multiriche et on veut la vendre 3 millions de dollars. C'est le but visé. Sauf que la Mustang, il faut qu'elle atteigne genre plus que 230 km/h. Là, il est compétition entre les deux gars. Toi, tu serais pas capable de l'amener, moi, je serais capable. Puis là, ben, Toby part avec le char, c'est une piste. L'acheteur potentiel voit qu'il a atteint les 234 km/h, décide de donner le montant. En tout cas, bon, peu importe, c'est pas bien ben important. T'sais, on sent la rivalité. Tout ça est juste pour exposer que les deux gars, ils s'aiment pas, puis ils sont toujours comme tirés la pipe l'un et l'autre. À un moment donné, Dino, il invite Toby à une course amicale. Il dit, tu sais, si on avait la même voiture, là, je suis sûr que je te battrais. T'as toujours eu plus de cash pour pouvoir me vaincre. Si on avait la même voiture, je suis convaincu que je te battrais. Fait que là, Dino, il y a un de ses hommes, un de ses oncles qui a trois voitures exotiques qui sont même pas taguées aux États-Unis, sont même pas plaquées, sont pas supposées d'être là. C'est les seules copies. Fouille-moi à savoir c'est quoi le nom du véhicule. Toi, si tu avais vu le film, tu capoterais, tu connaîtrais le nom du véhicule par cœur. Pas moi.
Ben, à ce que je sache, il y a une Koenigsegg.
Oui, c'est ça, exact.
Agera.
Oui, exact.
Je pense. Puis il n'y a pas une Pagani Zonda.
Mais c'est la Koenigsegg qui.
C'est la Koenigsegg qui a l'air un peu bizarre.
Il y en a trois. Il y en a genre une jaune, une rouge, puis. Je pense que c'est une bleue, là, la troisième ou grise. Là.
OK, et, ouais, je pense que c'est une Koenigsegg Agera R, là, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais.
Et donc, Toby, Dino, j'ai l'impression de parler d'enfants dans une galerie.
Et Agathe avec Boum Boum.
Ouais, s'en vont faire un pique-nique. Avec un des chums de Toby, s'en vont faire une course des rues. Puis là, ben, Dino est en train de se faire battre par les deux, par Toby et par son chum. Et là, ben, il prend pas, même s'il n'y a pas personne qui va le savoir, ça va juste être entre leurs trois, eux autres, là, entre eux trois. Il décide de bumper l'ami à Toby. Et là, s'ensuit un accident et l'ami en question décède. Et lui, ben, Dino se sauve. Comme il n'est pas supposé d'avoir ce véhicule-là, ben, même s'il y a des témoins qui disent qu'il y avait trois véhicules, il y avait trois participants à la course, Toby est considéré comme le responsable de l'accident et de la mort de son ami. Fait 2 ans de prison et c'est à la sortie de la prison que l'histoire vraiment prend son envol. J'ai l'impression que j'ai jasé super long, là, mais la prémisse, c'est quand même relativement court. Et à partir de sa sortie de prison, il y a une course légendaire, la DeLeon, qui met en place des courseurs, le multimillionnaire avec les meilleures bagnoles au monde, qui est organisé année après année. Et quand tu gagnes, tu ramasses toutes les autres voitures. Fait que tu peux avoir genre des millions de millions de dollars en prix à remporter. Et il sait, Toby, que Dino va participer et il veut le battre. Et là, ben, s'enclenche une course à travers les États-Unis pour se rendre de son petit village jusqu'à la Californie pour aller participer à la fameuse course DeLeon et il doit faire ça en moins de 48 heures.
Ça ressemble à Need for Speed The Run.
Exactement. C'est c'est ce que je me suis dit tout le long. The Run, pour moi, j'allais acheter. C'est le dernier Need for Speed que j'ai acheté parce que j'ai arrêté après ça volontairement. Parce qu'on me l'avait vendu à parcourir les États-Unis, la plus grande course du monde. Puis là, je fais, hey, voyons donc, j'aime les jeux de char. Ça va être le fun. Ça va être, hey, écoute, les États-Unis, j'ai 5000 km de course. Et boy, on est en business. Puis non, tu sais, on nous offrait genre 4 heures de course. Là.
Ouais, ça a foiré avec des rivales avec des élastiques. Un coup, tu prenais un peu l'avance, même si tu étais super en avant des autres, venait te dépasser à des vitesses de fou à un moment donné.
Il y avait des scènes de jeu où est-ce que tu étais en dehors des voitures avec des QTR. Il fallait que tu payes sur le bon piton au bon moment. En tout cas, très, très filmique, là, très façon cinéma là, comme jeu, mais tu sais, J'étais resté sur ma faim, puis en fait, la critique aussi. Sauf que l'histoire est intéressante. T'sais, le parcours à travers les États-Unis, plusieurs paysages, et ça, on le retransmet bien dans le film. On vit là l'épopée, puis un peu là, tout ce que ça prend. Dino, il veut pas que Toby réussisse à se rendre. Il envoie un peu des mercenaires contre lui pour le sortir de l'enjeu. La police est contre lui. Puis là, ben, il voyage dans sa Ford Mustang avec la petite cute jusqu'à la course pour pouvoir se battre avec les autres pour la Deleon.
Okay, la question, l'autre question que j'ai.
Vas-y.
Est-ce qu'il endommage la Mustang dans le film?
Ben oui.
Ah, ok. Ben je vais pas le voir. J'aurai mal au cœur. Non, je la trouve belle, la Mustang, mais j'ai jamais été un fan des narines qu'ils ont mis sur le dessus. Tu sais, les espèces de scoop pour l'air qu'ils ont mis sur le dessus. Je trippe pas sur ce style-là, fait que c'est ce qui m'arrête un peu.
C'est bien personnel
pour le,
à
pour
toi.
Le reste,
ça.
C'est belle. Pour le reste, c'est belle.
Ça, c'est bien, bien personnel à toi.
Oui, oui, c'est ça.
Dans les trucs positifs, je vais y aller avec ça. Okay? C'est un bon film. C'est correct. C'est un bon divertissement. C'est un film de course. C'est un film d'action. Il n'y a pas de gun à pu finir. Il n'y a pas de trafic de drogue. Il n'y a pas de vol. Dans le fond, c'est tout ce qui est familial de rapide et dangereux. Tout ce qui n'est pas familial, on l'enlève. Ça fait Need for Speed. Fait que si vous aimez rapide et dangereux, vous trouvez ça le fun, les bouts de course, voiture, pimpé, la patente, vous allez aimer Need for Speed et vous pouvez y aller avec la petite famille. Dans le cinéma, quand moi j'étais allé avec des flots, 7-8 ans, avec la famille, super bon divertissement familial, ça passe très très bien. On nous arrive avec des bonnes petites valeurs à la fin, tout est beau là, c'est très très clean, on voit rien de bien bien dommageable dans ce film-là, donc côté familial, c'est parfait. Il y a une belle ambiance.
Pas de violence excessive.
Non, exact, c'est ça. Ça se passe très, très bien. Là. C'est des bagnoles qui rentrent dans d'autres bagnoles à la limite. Là, quand il arrive des affaires, moins le fun. Là.
Okay.
Fait que tu vois, c'est vraiment pas graphique. Là.
Okay.
Il y a une belle ambiance. C'est le fun. Tu traverses les États-Unis, les différents paysages, l'histoire. Il y a une petite romance avec une fille cute. D'ailleurs, je vais revenir avec ça parce que... En tout cas, je vais revenir. Okay? Je fais le positif. Des belles images. On a vraiment là, réussi à rendre les États-Unis vraiment belles. Autant les scènes urbaines que quand on est plus en campagne. On a réussi à faire à trouver des localisations pour les différentes scènes merveilleuses. C'est beau, ça flatte la rétine, là. Ton œil est comme enchanté. T'as hâte de voir c'est où la prochaine place qu'on va se rendre. C'est quoi la prochaine image qu'on va te présenter parce qu'on a bien choisi nos endroits. C'est toujours très, très joli. C'est une histoire qui se tient. Tu sais, je te l'ai raconté là-dedans. Il n'y a rien qui fait comme. Qui saute aux yeux comme étant pas correct. T'sais, c'est une histoire qui fait la job, qui est très simple. C'est assez standard, mais ça se tient. C'est très agréable. Et c'est un film qui est le fun. On a réussi à rajouter des je dirais pas des petits goodies, là, mais tout le temps, il y a une petite touche d'humour. À un moment donné, il y a un des chums de Toby qui se trouve une job de bureau pendant les 2 ans que Toby est en prison. Puis, ils en ont besoin pour la course. Il est bon en mécanique. C'est lui qui va pouvoir arranger des petits pépins sur la voiture. Fait que là, ils décident qu'ils vont le voir à son travail. Il y en a un qui l'appelle. Il dit « Ouais, regarde donc par la fenêtre, tu sais. » Puis il est comme d'une tour à bureau, là. Puis là, Toby, il décide de faire des... il y a une police à côté de lui qui vient jaser, tu sais. Il veut pas que le moteur refroidisse, fait qu'il continue, tu sais, il tient la pédale, fait que la Mustang a fait du bruit, là. Toc, 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 tu sais, elle arrête pas. Puis là, quand tu sais que son chum la regarde, il commence à faire des burns dans le stationnement, fait que la police met à courir après lui. Puis là, le gars, il dit, « Ah, j'en rembarque dans l'équipe. » Puis là, ça suit une scène très, très drôle. Il donne sa démission d'une belle façon, OK? Je fais juste dire ça. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre. Puis, à la fin, un de ses amis, il dit « Pourquoi t'as fait ça? » Il dit « Je voulais être sûr de pas revenir. Maudit job plate! Ça me tentait pas de revenir. » Fait que, tu sais, c'est organisé pour pas se faire reprendre. Mais tu sais, il y a toujours ces petites affaires-là. Les scènes entre les quatre boys de la gang de chums, ça rend super bien. Les dialogues sont bons. Petite touche d'humour. C'est Need for Speed en film, sans que ce soit un film fait pour servir les gamers. Parce que trop souvent, quand on fait ça, on cible le gamer, on fait des erreurs. Là, on parle pas des jeux. La seule fois où est-ce qu'on a une référence, c'est on est dans le garage au début, puis il y en a deux, trois qui sont en train de travailler sur un des chars qui répare, puis tu vois en arrière qu'il y a la TV qui est comme sur pause, puis c'est un jeu de course. Là. C'est à peu près tout. Tes voix qui sont en train de jouer, mais tu sais, c'est toujours en background. Il n'y a rien là, qui fait vraiment référence à la série de jeux, puis c'est parfait de même.
Il joue peut-être à Test Drive Unlimited.
Exact. Ça se peut. C'était peut-être Forza dans la console. Là, on le sait
ça
pas.
Ça serait tellement hot.
Mais c'est pas grave. T'sais, c'est parfait de même. Je veux pas que tu me donnes trop de fanservice. C'est pas ça. T'sais. Sinon, tu deviens une caricature. Puis là, on le fait pas. Puis c'est parfait de même.
Ouais, c'est bon.
C'est un correct. Bon film. Ok. Le trois quarts, là, du début jusqu'au trois quarts du film, ça va super bien. C'est le dernier quart où est-ce que là, ça... Moi, là, ça m'a dérangé. J'ai sorti du film parce que je me suis mis à me poser trop de questions. Puis, c'est le genre de film que quand tu grattes un peu trop, ça va pas bien. Parce
plus
que
tu
ça s'effrite.
Plus ça pique.
Ouais, plus, ouais, c'est ça. Ça s'effrite. Le dernier quart, surtout la course de Leon, là, je me suis tellement posé des questions. Le pourquoi? Qu'est-ce qu'amène les conducteurs à être là? En tout cas, je vais y aller là, dans l'ordre, là, les trucs qui m'ont. Qui m'ont un peu tanné. Dans ce film-là, aussi réaliste que ce que je t'en ai parlé jusqu'à maintenant, il y a de la magie, Luc.
Ouais, j'ai entendu certains commentaires puis vu certaines scènes qui me font penser qu'un auto, ça vole pas nécessairement de cette manière-là. Mais bon, c'est tout ça que tu parles?
Non. Moi, je parle, c'est encore plus subtil que ça. Probablement que tout le monde qui a vu le film n'a pas accroché là-dessus. Là. Mais moi, là, c'est le genre d'affaire à laquelle je pense, OK? Le gars...
Parce que toi, on sait que t'es le cerveau de l'opération.
Non, mais je sais que moi, je pense pas comme tout le monde, puis je fouille à des places bizarres. Bon.
C'est une très bonne chose que tu penses pas comme tout le monde. Sinon,
le monde tournerait mal. OK, bon. Je t'explique. On fait des États-Unis S-West. On a besoin d'un char qui va vraiment vite. La Mustang, 234 km/h, elle va vraiment vite. OK? C'est ça le but. On l'a choisi pour ça. Puis on a 48 heures pour se rendre à la course en Californie. Jusque-là, ça va bien.
Ouais.
Toby a une gang de chums qui le suit avec un genre de truck, tu sais, une genre de dépanneuse. Il y a de l'essence, c'est pouvoir le tanker pendant qu'il roule, pouvoir faire des ajustements, tu sais, qu'il suit. Sauf que le problème, c'est qu'à tout bout de champ, Toby se retrouve avec ses chums. Sauf que si Toby va à pleine vitesse là, pendant 48 heures et il n'arrête pas, comment ça se fait que ses chums se retrouvent à la même place que lui avec une dépanneuse?
En même temps. Ouais. Tu m'as dit comme toi, c'est un petit peu ordinaire.
Il y a de la magie, là. Puis tu sais, dans le film, là, ça passe bien, là. Mais dès que tu grattes, dès que tu fais comme... Ben voyons donc. Il est parti de là-bas, ils étaient ensemble... Là, ils arrivent, tu sais, ils font des kilomètres, même qu'ils s'échangent le volant pour pouvoir conduire de nuit. Ils arrivent le lendemain, il arrive une patente, il a besoin d'aide, paf, ses chums apparaissent. Magie!
Ça me semble que je paierais 2 millions pour une Mustang qui roule pas plus vite qu'une dépanneuse.
D'ailleurs, parlant de la Mustang, la fille en question, OK? Je te parle depuis tantôt qu'il y a une petite concubine là, dans ce film-là. La fille sert d'intermédiaire entre le millionnaire qui veut acheter la bagnole dans le cadre de l'événement. C'est elle qui évalue la voiture. Fait qu'elle connaît ça un petit peu, puis c'est correct. Tu sais, on achète la patente, ça se peut. Tu sais, qu'un gars ait une genre de courtière en achat de voiture de luxe. Ça se peut, tu sais.
Non, ouais, ouais.
Ça, j'embarque. Le gars fait 2 ans de prison. Donc, ça fait 2 ans qu'il n'a pas vu la fille. OK? Mm-hmm. Parce qu'il l'a croisé juste dans une soirée. Il sort de prison. Il a besoin d'une bagnole rapide, et là, pouf, la fille apparaît, puis elle dit « Ouais, mon boss est prêt à te prêter la voiture. » Comment ça? Ça fait 2 ans que tu l'as pas vu, tu le connais pas, le gars, il sort de prison, là. Tu sais, côté faire confiance à quelqu'un, là, mais ça, c'est pas la première personne à qui je confierais une voiture de 3 millions de dollars, tu sais.
Quand tu sors de prison, peut-être pas. Mais il y avait peut-être des qualités indéniables de pilote de course incroyable.
T'sais. Ben, c'est ce que je me suis dit. Puis le seul moment où est-ce qu'on le voit courir, c'est tout seul sur une piste quand il atteint les 234 km/h. Mais être capable de faire du time attack versus une course en milieu urbain, en sachant que tu vas traverser les États-Unis avec de la police, il y a une sacrée différence, là.
Oh ouais, c'est un fait.
Fait que tu sais, encore, on gratte, ça s'effrite. Ensuite, la DeLeon, c'est cool, OK? Ça frappe l'imaginaire, une course avec des bagnoles de multi-riches, tu sais, avec ben du cash. C'est le fun, tu sais. On aime ça, cette facette-là, ça fait rêver. Sauf que je vous raconterai pas comment ça se passe la course. Je veux pas brûler les potes, ce serait plate, là. Mais quand vous allez écouter le film, là, demandez-vous qu'est-ce que la personne gagne à la fin. Dans la façon que ça se ramasse, là, est-ce que c'est vraiment intéressant de gagner? Puis, aussi de la façon que ça se passe, est-ce que c'est vraiment intéressant d'y participer à cette course-là? En tout cas, je laisse ça de même. Écoutez le film, vous m'en reviendrez avec vos réponses. Autre magie, je reviens là-dessus. La police. Elle est magique. La police, on la voit juste à certaines occasions en ville. Moi, j'en ai fait du millage. Tu le sais, Luc, j'ai habité loin, puis j'en ai fait des runs là, de 1000 kilomètres. Lui, il en fait genre 5000 en 48 heures. Là. Il roule, puis pas à peu près. Là. Il croise une police. En fait, deux. Il en croise une au début de son périple, puis une dans un truck stop, puis c'est tout. Pendant 5000 kilomètres, puis il roule à fond. Là. Je trouve ça étonnant.
Ouais, ça ressemble un peu à des fois ce qu'on voit au Québec.
Mais en même temps, ça, ce bout-là, ça me va, OK? Ça se peut que, ben, tu sais, je l'ai déjà fait, là, une run, là, quand j'ai déménagé de Hearst en Ontario jusqu'à Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord, j'ai fait 2400 km, puis j'ai pas vu une police durant toute la route, là. Fait que ça se peut. Ça, je l'achète. Il y a pas de trouble. Sauf qu'on arrive à la course de la fin, à De Leon, puis là, écoute, de la police... Il y en a. Là, il y a une explosion. Là, il y a des polices partout. Là, tu fais comme, OK, on n'a pas vu du film. Puis là, ils sont tous donnés rendez-vous à cette place-là qui est secrète, que personne connaît. Puis juste l'organisateur de la course qui le dévoile, genre, la soirée d'avant. Là. Ça donne de même, tu sais.
OK.
En tout cas, encore une fois, j'ai fait comme magie du cinéma. Hein? Quand ça nous arrange bien, on le fait, puis c'est correct de même.
Ouais, c'est ça. C'est un peu le problème. Ouais. Donc, des fois, on essaie de juste servir le script.
Ben, c'est ça. Moi, j'ai un peu de misère avec le cinéma quand on se pose pas ce genre de questions-là, tu sais. On me présente un film, tu sais, organise-toi donc pour qu'il se tienne, tu sais. Organise-toi donc que ça fasse du sens. Pose-toi des questions à propos de ton scénario, tu sais. Ça aurait été quoi, tu sais, d'ajuster un peu les affaires, de rendre ça plus vraisemblable? Tu sais, je te parlais de la fille, là, tout d'un coup, elle pop, là, tu sais. On aurait pu l'acheter, la voiture, on aurait pu, je sais pas, quelqu'un qui te finance, l'organisateur de la course, il sait que t'es hot, il te finance, il te passe un char, whatever, tu sais. Ça aurait pu être n'importe quoi, tu sais, parce que lui, il le connaissait, mais la fille, elle le connaît pas, tu sais. Elle l'a pas vu pendant 2 ans, elle l'a vu courser tout seul sur un circuit fermé avec personne d'autre, là. C'est tout ce qu'elle a comme connaissance du gars, puis elle passe un char de 3 millions. J'ai de la misère, tu sais. Il y a moyen de twister ça autrement, mais ce que ça permet, c'est qu'il y a une petite relation d'amour entre les deux, puis là, ça fait le cuteness du film. Mais on en a-tu vraiment de besoin, tu sais?
OK. Ouais.
C'est ça, j'ai de la misère avec ça. Posez. Hey, toi, créateur de film, ouais, je te parle. Pose-toi donc des questions avant de te lancer dans un film, tu sais. Avant de nous présenter une histoire qui ne se tient pas, pose-toi des questions.
Ouais, avant de faire arriver une dépanneuse en même temps que la Mustang qui est supposée rouler à plus de 200 000 à l'heure.
Voilà, tu sais, pose-toi des questions. Ça fait-tu du sens? Hein?
Si la réponse est non, revois ton script.
Puis tu sais, là, c'est un film simili-réaliste. Puis déjà, on est capable de... Tu grattes, puis ça se tient pas. Imagine dans le domaine de la science-fiction. Là. Ça, là, c'est un des domaines que j'aime le moins. Désolé pour les gens qui aiment ça, ce type de film-là. Mais je trouve tellement que des fois, là, t'as des raccourcis d'un scénario. Puis, tout d'un coup, on dévoile un talent d'une personne. Puis, elle est capable de faire ça tout d'un coup. Là, exemple, Tron Legacy. Là, depuis quand que le créateur s'est codé une bombe sur lui? Là? On jase. Pour les gens qui ont vu le film, vous allez comprendre. Là, mais quand est-ce que c'est dit? Depuis que, t'sais, pouvait-il vraiment penser se coder ça avant de rentrer dans la machine. En tout cas, tu sais, non, réfléchis, pense-y avant, là. Ça fait-tu du sens? Non, tu l'enlèves. Merci.
Ben, c'est ça.
Voilà. Donc, Need for Speed, si vous avez le goût d'aller voir ça, vous êtes un tripeux de bagnole, vous aimez des films avec de l'action, c'est pas trop over the top, on est loin de Rapide et Dangereux, là, dans le invraisemblable. C'est un bon divertissement, 2h11, il y a pas de longueur, on a bien rempli ça, ça se tient super bien, c'est un bon divertissement. Aaron Paul fait une super bonne job en tant que personnage principal. Il est beau, il est fin, il est ténébreux, il est bon, il pilote bien, il a tout pour lui, mais en même temps, il y a un petit côté bad boy. Les filles, vous allez capoter. Vous allez triper là-dessus. Donc, c'est un bon film. Je vais y aller avec une note, je vais y aller avec un 7.5. C'est un divertissement qui est honnête.
Ouais, c'est 7.5, c'est louable.
Là. C'est très, très louable. Et ouais. Si vous avez l'occasion de ne pas le voir en 3D, de le voir simplement en 2D, faites ça, ça vaut pas la peine le 3D. Bien souvent, ça vaut pas la peine, mais particulièrement dans ce film-là, moi, je l'ai pas vu passer, le 3D, puis je me suis demandé, qu'est-ce que je fais avec des lunettes d'en face? Puis il y a même des scènes, j'enlevais mes lunettes, puis je regardais le film pas de lunettes, là. C'est dire à quel point que j'en avais pas de besoin tant que ça, là.
Quel point ça servait pas vraiment à grand chose.
Ouais. Puis tu sais, des fois, là, à un moment donné, là, tu vois une scène, là, tu vois le coucher de soleil, la Mustang, elle passe là, dans les champs, puis là, elle fait des petits virages, puis tu sais, c'est comme angélique. Il y a rien, là. Il y a rien de particulier, là. Tes caméras qui est au loin, tu sais, qui voit passer la Mustang à l'horizon. Puis là, j'enlevais mes lunettes, puis il y avait comme un petit flou. Je fais, ben voyons, non. T'avais pas de besoin, là. On a comme créé une fausse profondeur. Probablement qu'il y avait un buisson qui avait une épaisseur dans ce scène-là, là, tu sais. Je sais pas. Je vois mal où est-ce qu'il y avait de l'intérêt d'avoir la 3D là-dessus. On a juste comme brouillé, parce que si t'enlevais tes lunettes, ben tu voyais brouiller, tu sais. Fait que t'étais mieux de les garder.
Buisson épais.
Regarde, des fois, là.
C'est quand même pas.
Des fois, c'est à se demander, tu sais, est-ce qu'on fait ça pour le mieux du film, la 3D?
Ouais,
on en a-tu vraiment de besoin ou c'est vraiment pour pouvoir charger plus au guichet?
C'est pas juste ça, hein? C'est pas juste charger plus au guichet, c'est aussi sortir une copie en Blu-ray en 3D que tu vends plus cher et peut-être aider à vendre une télé en 3D dans une maison aussi ou un projecteur 3D dans une maison. Fait que c'est tout un processus, c'est pas juste d'aller au cinéma et de le voir en 3D, c'est maintenant disponible à la maison en 3D aussi.
Ouais, mais tu sais, faut que ça serve à de quoi, tu sais?
Ça sert à faire de l'argent.
Ouais, mais je veux dire, pour le client, tu sais.
Non, ça c'est.
Donne-moi une justification, tu sais, que ça vaut la peine.
Là. Pas toujours important, ça. Des fois, c'est juste pour le faire. Mais, tu sais, à la rescousse du créateur, du producteur du film, des fois, il se fait rentrer ça dans la gorge.
Ah ouais, non, c'est clair. Ah oui, on te l'oblige, c'est juste à la maison de production, puis hey, tu vas mettre de la 3D. Je n'ai pas de besoin, mais de la 3D, on veut mettre le. Tu sais, c'est parce que c'est cool sur le poster d'écrire 3D, là. C'est comme à la mode, là. T'sais.
Ouais. Puis le problème aussi, c'est que souvent, ces films-là en 3D, c'est fait en post-prod.
En
c'est
plus.
C'est fait hein. Après le fait. C'est pas tourné avec des caméras 3D, c'est tout fait après. Puis là, t'as quelqu'un assis dans un studio qui dit OK, l'arbre en arrière, on va dire qu'il est à 50 pieds. Puis
fait que là, ça jure à l'œil, tu sais, parce que
c'est pas du vrai 3D. Voilà. On dicte selon ce que ça devrait être ou la profondeur de l'objet, tu sais. Fait que des fois, ça crie totalement. Là. Mais la plupart des films sont faits en post-prod. Maintenant, le 3D, ça coûte moins cher que de tout filmer ça avec des caméras 3D, j'imagine.
Si c'est pas Avatar, fous-moi la paix avec ton 3D, s'il te plaît. Tu sais, si ça vaut pas la peine autant qu'Avatar, laisse faire. T'sais, laisse tomber. Ouais. Ça va te revenir moins cher de le faire ton film, puis moi, ben, ça va me revenir moins cher. Puis on va tout être heureux, toute la gang.
Ouais, ben oui, mais c'est, t'as pas fini de voir du 3D.
Non, je sais bien.
Ouais, c'est ça. Je malheureusement pour toi.
Donc c'est voilà. C'est
pire, achète-toi des films, des lunettes qui convertissent le 3D en 2D, ça se vend.
Ah ouais?
Ouais, Frank the Tank n'avait parlé je pense qu'il en a même acheté une paire. Là. Il y a une compagnie qui vend des lunettes qui convertit les films 3D en 2D. Donc, tu amènes tes lunettes pour voir pas le 3D.
OK. Bon, ben.
Ouais, c'est intéressant.
Bon, ouais.
Tu payes quand même 3 piastres de plus. Ils disent pas qu'on va vous enlever 3 piastres, monsieur, parce que vous verrez pas le 3D avec vos lunettes.
Non, c'est
on
ça.
On te le charge quand même.
Bon, ben écoute, c'est ce qui fait le tour pour Need for Speed The Run, le film. Non, c'est pas vrai, ça s'appelle pas The Run.
Non, Need for Speed To Go, le film.
En anglais et en français d'ailleurs, le même titre, soit dit en passant.
Non, c'est bien, ils ont pas mis ça, besoin de vitesse ou.
Non, c'est ça, vivre pour la vitesse ou whatever.
Ouais, rage de vitesse ou. Ouais, c'est un fait.
C'est bien correct de même, c'est tout le monde jase la même affaire. Puis en France, ils vont l'appeler genre la vitesse qui tue pour l'amour de la vie. Bon, sûrement.
Peut-être. C'est non,
on sait la tendance qu'ils ont à changer les titres des fois.
Oui, oui, y a rien n'est possible.
ceci étant dit, quel commentaire négatif envers les Français? Je vous aime.
Ben non, c'est vrai qu'ils ont le don de ben, ou c'est nous autres qui a le don de parler les mêmes titres que eux.
Ouais, peut-être, mais
Mais nous, on est collés, ces Américains. Je veux dire, c'est pas la même chose. Eux sont quand même plus loin. Là. Mais ils font de très bonnes choses, nos cousins français. On les aime quand même. Si, tu sais, des fois, les titres de films sont totalement dérisoire.
Je suis sur le site de Allo Ciné, donc en France, et il s'appelle bel et bien Need for Speed.
Tu as vu? Maudite affaire encore. Hein? Uh-huh. Non, c'est vrai, ils n'ont rien changé. Non, c'est beau.
Réalisateur Scott Vong, qui a fait Act of Vader, qui est sorti en 2002. Il a joué dans Triple X.
Ah, oh, quel ben quel ouais. Crédit incroyable.
Ben ok.
Ouais,
puis ben, c'est ça, là, ça ressemble
Triple à ça. X, film qui était supposé totalement révolutionner le monde du genre style James Bond.
Ben oui.
Et qui a, un peu foiré.
C'était dur à chercher sur Internet. On tombait sur d'autres choses.
Ouais, tu tombais pas vraiment ce que tu voulais. Mais Vin Diesel a dit qu'il voulait faire Triple X 3.
Oui, c'est ça.
Triple 3X, j'imagine. Parce qu'il disait qu'il y avait encore... Tu sais, Xander, son personnage dans le film, avait encore une histoire plus complexe à raconter. Moi, je pense qu'on a fait le tour, mais bon.
Ouais, sors un autre film, puis prends cette histoire-là, puis mets-la à la place.
Hein. Vas-y, mon Vin, t'es capable.
Ceci étant dit, écoute, voilà qui fait le tour pour l'émission de cette semaine. J'ai un petit message, je voulais lancer ça. Si vous êtes si vous avez Xbox One, vous jouez à Titanfall, venez jouer avec nous autres, on a du fun, ça n'a pas de bon sens. Moi, une gang de chums, on est souvent là 6 contre 6, on réussit à se faire des grosses games. Ça vous tente de m'ajouter comme ami, cherchez Gang JB comme mon Twitter, mais sans le underscore. Aussi simple que ça, ajoutez-moi. Si vous jouez à Tits, on va avoir du fun. Oui, Tits, c'est le mot-clé que la gang on a trouvé pour Titanfall. Et ça te fait des drôles de recherches sur Twitter. On aime ça, c'est toujours très drôle.
Sur Twitter ou sur Google.
Ouais, on cherche Tits.
Ouais, c'est ça, mais... qu'est-ce que tu veux? Mais c'est le fun, vous ayez du fun. T'sais. Un jour, peut-être, j'aurai une Xbox One, mais c'est pas pour tout de suite.
C'est un jeu qu'éventuellement, je vais critiquer dans la réalité augmentée. Un jeu qui n'a pas de solo. Tu sais, tu veux faire un jeu multi, là, tu veux vraiment que ça soit ça, l'expérience de ton jeu. Pas besoin de m'offrir un solo, vas-y. All-in avec ton multi, puis voilà.
Et ils ont compris un peu, au lieu de faire un Battlefield 4 avec 3 heures de mode campagne, ouais. Ben, ils ont juste fait un
ouais,
un
c'est jeu, Assassin's Creed avec un multi, là, tu sais, non, là, tu sais. Ta vocation première, c'est quoi? Mise là-dessus à 100%, puis le monde va comprendre.
Oui, mais ça va peut-être être un signe aussi pour le prochain Battlefield. Peut-être que si Titanfall est un succès, peut-être qu'ils vont juste décider de faire un Battlefield 5 seulement multi.
Ou seulement solo? Non, je ne penserais pas.
Non, ça me surprendrait.
Luc, dis-moi, où est-ce qu'on te retrouve sur le web?
Sur Twitter, vous pouvez me rejoindre à Scalazormo. Il y a aussi le site de CJUAP. Il n'y a plus grand-chose qui se passe là. Mais plus vous envoyez vers le site du podcastauto.ca que je suis en train de tranquillement remonter. Puis vous pouvez me lire tous les jeudis sur le blog de Kijiji à frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Je fais des chroniques automobiles pour Kijiji. Là, un nouvel article à chaque jeudi. C'est à peu près ça. Puis toi, mon cher JB, on te rejoint comment?
Ben, compte personnel sur Twitter, @gangj_b. Sinon, ben, le compte de la réalité augmentée, @realitéhog. Cherchez aussi sur Facebook, /realitéhog. Simplement, donc facebook.com/realitéhog. On a une adresse courriel pour nous rejoindre. Vous avez des commentaires, des trucs positifs, négatifs, des commentaires constructifs, des choses duquel vous aimeriez qu'on parle, des propositions d'affaires. Vous voulez nous commanditer, vous voulez qu'on parle de vous. Vous êtes développeur, ouais, ça serait cool. Développeur de jeux indépendants. On veut vous offrir de la place. Appelez-nous, communiquez avec nous, puis on va s'organiser pour vous faire connaître. On veut aider, on veut redonner à notre prochain, donc communiquez avec nous via notre adresse courriel podcastrealitéaugmentée@gmail.com. Aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué. Et c'est pas mal ce qui fait le tour pour cette semaine.
On veut aussi être un peu paresseux parce que quand vous venez faire un tour sur notre show, on n'a pas besoin de se préparer de chronique.
En plus.
Juste de même.
Ben oui.
C'était le non-dit.
Dis-le pas trop fort. Mais
non, non, mais
oui.
C'est le fun de recevoir des gens. Ça fait des gens qui ont de l'allure à parler avec, des fois.
Ouais, ça fait des choses dynamiques. Ça change le mal de place.
En plaisir.
Merci beaucoup, Luc.
Merci, Jean-Benoît.
Merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se dit à une prochaine fois dans un autre élément de la réalité augmentée. Salut!
Bye, tout le monde.